Europe 1.
Et c'est l'heure du débat des grandes voix sur Europe 1. Nathalie Lévy avec vous autour de la table. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Bienvenue les grandes voix, meilleurs vœux à vous.
Merci.
Ravie de vous retrouver.
Meilleurs vœux à vous.
Bonne année. Et bonne année à nos auditeurs qui sont ravis de vous retrouver chaque soir de la semaine de 18h30 à 19h en direct. Les grandes voix, évidemment, on se regarde encore une fois cette semaine autour. On se retrouve encore une fois autour de cette réforme des retraites, ces négociations qui n'en finissent plus. On a terminé l'année là-dessus, on redémarre l'année là-dessus parce que demain, gros rendez-vous au ministère du Travail, autour d'abord de Édouard Philippe et puis ensuite de Muriel Pénicaud qui va entrer dans la danse, la ministre du Travail. Alors, comment on observe ça? On va démarrer avec vous, Gérard Carrérou. Cette semaine, elle est cruciale. C'est la semaine de tous les possibles, de tous les dangers, qu'on le dit.
Ça fait quelques fois qu'on a dit dans ces 33 derniers jours que c'était un moment crucial. Mais là, il semble que c'est un moment un peu plus crucial que d'habitude, parce qu'on a vu quand même, on a vu au cours de la journée, en fait depuis hier soir, depuis le passage de Laurent Berger à France 2, on a vu effectivement s'esquisser en pointillé ce qui pourrait être un compromis sur ce qui était jusqu'à présent, depuis 33 jours, la grosse pierre d'achoppement qui était les 64 ans, l'âge pivot. Alors, Berger disant à la fois, l'âge pivot reste pour moi
un totem
absolument dont on ne veut pas, mais en même temps, on devrait déconnecter l'âge pivot du reste de la réforme et renvoyer ça à une discussion. Et à partir de là, on a vu ce matin, comme si c'était tout près d'avance, les ministres, les uns après les autres, le maire, etc., dire « Ah, mais tout ça, c'est très bien, il tend la main, il faut prendre cette main qu'on nous tend, et puis on a vu le président de l'Assemblée faire des propositions. » Tout ça allant dans le même sens, c'est-à-dire, on voit ce qui pourrait être un compromis possible, demain ou après-demain, entre le pouvoir d'un côté et les syndicats dits modérés depuis le début. Ça pourrait être sur cette base qu'effectivement il y a une déconnexion. Peut-être, si ça marche, dans le projet de loi, il n'y aurait plus vraiment l'âge pivot, mais il y aurait quand même le renvoi pour le financement.
Bon,
voilà. C'est ça le compromis possible.
On divise pour assurer ses arrières. Jamais le compromis ne m'a semblé aussi proche. C'est effectivement Bruno Le Maire qui le disait ce matin sur France Inter. D'ailleurs, ils l'ont tous dit, le mot compromis. Oui. Sibeth Ndiaye,
ils sautent sur l'occasion, parce qu'en fait, en vérité, il entrebâille la porte. Il fait plus que l'entrebâiller, Laurent Berger, parce qu'il reste effectivement arc-bouté sur les 64 ans, mais c'est la première fois qu'il reconnaît qu'il faut se poser la question du financement. Alors qu'avant, il se basait sur le premier rapport du COR, qui, pour le coup, disait qu'il n'y avait pas de problème financier. C'est le deuxième, celui de novembre, qui a été commandé par le Premier ministre, qui l'a changé, la trajectoire du gouvernement, et qui, dans le fond, Édouard Philippe s'est dit « je vais faire d'une pierre deux coups », c'est-à-dire une réforme systémique et une réforme financière. Donc, Berger entrebâille cette porte, et rappelons que, franchement, il était... C'était pas gagné.
C'était pas gagné.
Et les Français, c'est vrai, commencent à basculer, on le voit bien, dans une forme d'interrogation. C'est vrai que les Parisiens, en tout cas, en ont...
Les Franciliens,
c'est ça.
Eh oui, Charles Villeneuve, les Franciliens en ont évidemment marre. Mais le soutien, il reste là. On est passé de 57% à 53%. Ça reste quand même une grosse majorité de Français, enfin en tout cas une majorité de Français à soutenir ce mouvement. On voit bien que les trains repartent. On voit bien aussi qu'il y a un peu plus de métro sur les rails. On n'y est pas encore. Et puis vous avez entendu du côté de l'UNSA, on avait arrêté la trêve parce que c'était la trêve des confiseurs, mais là, c'est pas parce qu'on négocie demain que on poursuit.
Mais c'est vrai que la grande grève, celle qu'on entend, qui mobilise, etc., s'essouffle quand même, indéniablement, évidemment, moins dans la RATP, à la SNCF surtout. La CGT cheminot de là est quand même toujours arc-boutée sur ses positions. On le voit très bien avec Martinez, dont on se demande d'ailleurs s'il est plus prisonnier de la CGT cheminot qu'il n'est libre en tant que secrétaire général. Je n'ai pas d'avis définitif. Mais moi, la question que je me pose, j'ai écouté attentivement mes camarades là, mais je dis, mais est-ce que si vraiment le président, enfin le Premier ministre et surtout le président de la République qui a impulsé ce compromis rapide qu'il a réclamé le soir.
Qu'il leur a demandé même une obligation de résultat rapidement.
Et s'il peut saisir l'offre de Berger qui est de renvoyer donc la gestion des finances à une conférence ultérieure, sans désavouer le Premier ministre, qui a fait, rappelons-nous, depuis le départ de l'âge pivot, vraiment l'un des points forts de la réforme, tel que lui l'a, l'imagine et veut la conduire jusqu'au bout, s'il cède, moi je dirais que son électorat de droite, qui est quand même l'un des socles, et pas le seul, mais l'un des socles de son élection, notamment plus européenne que présidentielle, mais déjà à la présidentielle. Moi, je trouve que autant en 2017, l'atout de Emmanuel Macron était Marine Le Pen, autant en 2022, l'atout de Marine Le Pen sera de retrouver Emmanuel Macron.
Oui, mais ce qu'il faut faire, c'est justement faire sortir l'âge pivot de 64 ans.
C'est la parade,
tout en
peut-être.
Le gardant.
Voilà. En fait, on
comme objectif final, quand même. Mais ça, c'est difficile. C'est un petit peu un tour de passe-passe.
Exactement, c'est une fin.
Parce que, bah voilà, oui, mais en même temps, je suis prêt à parier que l'âge pivot tel que ne sera pas dans, la, dans l'écriture du projet de loi présenté le 20.
Âge d'équilibre, déjà. On s'arrête une seconde, mais je vous sens vraiment très en point.
Très chaud,
sur ce sujet,
chaud,
évidemment.
Moi, je vous ai jamais vu vous arrêter une seconde. Jamais.
C'est promis, on vient dans 2-3 alors.
Et vous pouvez effectivement vous aussi poser vos questions aux grandes voix. N'hésitez pas, ça se passe au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix pour débattre ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Febvre, chef du service politique de France 24. Et toutes vos questions en direct au 39-21.
Et nos auditeurs ont retrouvé effectivement le chemin d'Europe 1. Bienvenue à vous, Alain. Bonsoir. Vous nous appelez
bonsoir,
de la région
Nathalie,
parisienne.
Bonsoir, les grandes voix.
Voilà, meilleurs voeux à vous. Vous êtes dans 78, donc impacté évidemment par les mouvements depuis un mois. Et vous dites stop, vous, j'imagine.
Ben oui, écoutez, je pense que on n'en peut plus là maintenant. Donc, je pense que il faut, comme toujours, faut savoir terminer une grève, savoir finir un mouvement. Mais moi, ma question serait plutôt, je voudrais savoir ce que pensent les grandes voix de l'affirmation du président qui dit et de toute façon derrière, je continue à réformer. Va-t-il le faire ?
Bah, tout dépend de l'âge pivot, j'allais dire.
Non,
c'est-à-dire il n'y a pas que ça, il n'y a pas que
la
ça.
La crédibilité à réformer. Elle passe par cette loi. Si cette loi finit par passer avec l'âge pivot,
c'est ça, avec
l'âge pivot dedans, alors que quand même, au jour du dernier sondage, 66% sont opposés à l'âge pivot, 2/3 des Français sont opposés. S'il arrive à la faire passer quand même, oui, ça, alors je réponds à notre auditeur, il me semble que sa capacité à réformer le pays reste... Voilà. Entière.
Si,
mais s'il est obligé
de transformer,
pour trouver
une sortie d'équilibre déjà, est-ce que on y voit toujours
aussi
clair, ça change
rien. Les gens ne sont pas fous. Tout s'est organisé autour de ça. S'il n'arrive pas à le faire passer, eh bien, ça sera d'une certaine manière une façon de reculer. Et du coup, la crédibilité à réformer le pays sera largement amoindrie.
Alors ça, c'est vrai. Tu as raison là-dessus. Mais sincèrement, là, je l'ai dit, je me répète, s'il cède, la droite en tiendra compte, indéniablement.
Aussi, oui.
Mais surtout, si tu veux, c'est quand même une réforme qui va s'avérer coûteuse, non financée, avec toutes les concessions qu'il a déjà faites, et qui ont rendu opaque, je dirais même quasiment incompréhensible, cette réforme. Et ça aussi, peut-être va-t-il garder, si tu veux... Sa signature initiale, qui est celle du réformiste. Et d'ailleurs, en même temps, il sous-entend qu'il va continuer d'autres réformes aussi.
La dépendance.
Oui. Alors, mais c'est vrai qu'en même temps, s'il recule sur celle-là, qui est quand même la mère des réformes, cette identité-là va être atténuée, en tout cas atteinte.
Et Roselyne Febvre,
oui, s'il y arrive, je dirais, sans mauvais jeu, c'est le roi de la jungle. Mais parce que là, il y arriverait sans froisser la CFDT. Et n'oubliez pas quand même que l'acte 1 d'Emmanuel Macron, c'était les syndicats sont des ralentisseurs, ce sont des vieux ustensiles dont on n'a plus besoin. L'acte 2, c'est je discute, je remets dans le jeu tous les syndicats, je suis le nouveau Emmanuel Macron de l'acte 2. Et puis, ça satisfait aussi une partie. D'abord, on le voit au gouvernement, de ceux qui viennent de la gauche, comme Richard Ferrand, qui n'est pas insensible à la CFDT, et à ce réformisme et à cette social-démocratie. Et puis, effectivement, comme Charles le disait aussi, cette droite qui vient s'ancrer chez Emmanuel Macron et qui a besoin de...
Voilà Alain, vous avez vos réponses de la part des grandes voix. La question qui va avec quand même, c'est que le 9 et le 11, les syndicats continuent d'appeler à descendre dans la rue, mobilisation interprofessionnelle voulue. Si la CFDT obtient un gain de cause demain, si la formulation est suffisamment ambiguë, en tout cas pour laisser entendre qu'elle a gain de cause,
il reste la CGT.
Des autres, voilà.
Il reste
la CGT.
Les autres ont une revendication absolue, on la connaît.
Oui,
de toute façon, soit AFO et CGT, c'est d'abord le préalable, c'est que la réforme entière soit retirée, qu'on reste en l'état, même si on aura déjà obtenu, parce qu'ils ont obtenu les cheminots,
la
RATP, absolument. Ils ont obtenu des avancées. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est une loi quand même qui est en train de devenir non seulement incompréhensible, mais extrêmement coûteuse.
S'il y a deux syndicats sur les cinq, ou six, si deux suivent, on peut dire que le pari audacieux est gagné.
Et cadre, etc., c'est sûr.
Mais je crains que la CGT à un moment se coupe en deux en réalité. Oui. Il restera les radicaux.
Les puristes,
et
je me
demande si Martinez n'est pas de ceux-là. D'ailleurs, et ceux qui veulent arrêter parce qu'ils pensent à leur fin de mois. Oui. Donc, il y a peut-être aussi un risque de violence et puis une grève qui va continuer bon an mal an avec un trafic peut-être quasi normal avec des opérations coup de poing ou des opérations comme on en a vu ces derniers temps. Ça risque comme ça de finir un peu. Comme ça, avec de temps en temps...
Parce que l'Élysée mise quand même aussi, d'une certaine manière, sur le pourrissement, on ne va pas se mentir. Parce qu'il voit bien, Emmanuel Macron, que les trains repartent. Là, on est à 1 sur 2, 1 sur 3, selon les lignes, etc.
Oui, c'est pour ça que la stratégie de ne rien avoir fait pendant Noël s'avère, dans le fond, une bonne stratégie. Et on disait toujours, mais qu'est-ce qu'ils font ? Mais quand même, les Franciliens en ont marre, les Parisiens, les Français aussi, parce qu'il y a sur les trains à Noël, etc. Donc, si c'est un pari gagné... j'avoue qu'on pourra dire que c'était une bonne stratégie puisque ce pourrissement, in fine, aura fonctionné.
Il peut y avoir énormément de monde dans la rue et encore plus éventuellement et un peu des taches d'huile vers les raffineries. Il y a des éléments pour l'instant qui demeurent point d'interrogation.
Moi, je crois qu'il y a quand même. On ne peut pas exclure, Gérard, le danger de la guérilla sociale.
Oui, absolument.
On ne peut pas l'exclure.
C'est bien ce que je dis. C'est pas gagné, là. Faut pas, ceux qui pensent que ce soir, que dans une semaine, on retrouve les transports quasiment normaux, ou dans 15 jours, ceux-là, peut-être, on les tromperait en disant ça.
Parce que vous l'avez dit, il y a les raffineries qui vont peut-être entrer dans le jeu avec la fédération CGT qui a appelé d'ores et déjà à un blocage à partir de demain pour 4 jours. Jean-Luc Mélenchon qui sera demain matin au micro de Sonia Mabrouk, on l'a entendu, très en pointe aussi. Emmanuel Macron croit que les gens vont se résigner, mais lui, il est derrière pour continuer à les chauffer à blanc. On en reparle dans un petit instant, les grandes voix. À tout de suite.
Et la suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est dans un instant et jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix comme chaque soir avec autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24.
Et on va regarder ce qui se passe en Iran, si vous le voulez bien, avec des milliers de personnes qui ont accompagné aujourd'hui à Téhéran le cercueil du général Soleimani tué dans une attaque de drone des États-Unis en Irak. Une foule d'ailleurs qui scandait mort à l'Amérique, c'est pas le premier jour. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Le tweet est écrit en lettres capitales avec un point d'exclamation. Il était signé de Donald Trump. Une fois qu'on a dit ça, où en est-on dans cette crise-là qui se joue sous nos yeux et qui peut prendre des proportions considérables?
On est dans une logique de guerre. Je ne sais pas Charles est d'accord avec moi, mais on est dans une logique de guerre. Là.
Il faut jamais oublier à qui on a affaire. Les Perses, je dis les Perses, évidemment, ils ont décidé de s'appeler à tort, à mon avis, l'Iran. Mais les Perses et la Perse est un pays expansionniste. On l'a vu d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas seulement en Iran, ils sont en Irak, ils sont en Syrie, ils sont au Liban. Bon, et ce qui s'est passé avec l'assassinat, de manière préparée sur le plan du renseignement de main de maître, il faut aussi le souligner, à Bagdad, il fallait savoir, vous savez, quand Qassem Soleimani se déplace dans des cortèges extrêmement discrets, secrets, dont le point de départ est vraiment un secret d'État, c'est quasiment le numéro 2 du régime, il ne faut pas l'oublier. Et donc, l'assassinat par drone a été et sous-tendu par des renseignements extrêmement précis au sol. Cela étant, ils vous ont envoyé déjà un premier message, les obsèques. Les obsèques depuis Khomeini, depuis la mort de Khomeini, depuis 1979, on n'a jamais vu une manifestation aussi dense, aussi nombreuse. Plus d'un million de personnes dans la rue, c'est le premier message aux Occidentaux et surtout aux Américains. Ils vont, de manière très froide, préparer la riposte. Et elle aura lieu, la riposte. Simplement, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, le traumatisme des Américains qu'ils n'ont jamais oublié. Je parle là sous le contrôle de Gérard, qui connaît bien les États-Unis, le peuple américain, et ils n'ont jamais oublié la prise d'otage de l'ambassade américaine en 1979.
Absolument.
Bon, et cette prise d'otage a coûté la réélection de Jimmy Carter. C'est une épée de Damoclès. Et il est très vraisemblable que ça va servir de modèle dans leur réflexion de riposte, si vous voulez, et de contre-offensive par rapport à l'assassinat de Soleimani.
Mais j'enchaîne, si vous me permettez, cher consoeur. Du même coup, ce qui a coûté la présidence à Carter peut permettre une réélection extrêmement brillante, si j'ose dire, brillante. Dans un climat comme ça, ce n'est pas brillant, mais une réélection facile de Trump. Et je pense que dans la tête de Trump, il y a la chose suivante. Un, il va y avoir la riposte iranienne que décrivait Charles contre, alors je ne sais pas où et comment, mais contre des militaires américains.
Des ponts, il ne faut pas non plus que les Iraniens ne veulent pas couper tous les ponts, les Iraniens.
Oui, les Iraniens, en tout cas, de toute façon, leur régime était contesté de l'intérieur, exsangue avec les sanctions américaines. Et là, la guerre leur permet, vous venez de le dire, de retrouver sous l'étiquette de leur nationalisme l'unité du pays.
C'est un
rebondissement pour eux. Et pour Trump, il sait que la mémoire longue des Américains, et ça, je me souviens encore de l'été dernier d'avoir parlé avec des gens de la rue, etc., le jour où Trump, après des représailles contre des Américains qui feront des morts américains, le jour où Trump décidera de bombarder, de ne pas tuer un seul général, même si c'est le plus éminent, mais décidera de taper, par exemple, une des usines atomiques où on prépare effectivement l'uranium de demain, le jour où il fera ça, peut-être avec l'aide des Israéliens éventuellement, eh bien ce jour-là, il aura 80% des Américains derrière lui et on sera à quelques mois des élections.
Et voilà. Et Donald Trump s'est préparé. Il l'a dit d'ailleurs. Il se prépare, en fait. Il sait très bien qu'il y aura cette riposte.
Oui, mais c'est une voie périlleuse pour les deux.
Oui.
C'est une voie périlleuse pour Donald Trump, qui a choisi, en quelque sorte, la stratégie de rupture. Et n'oublions pas que tout cela part quand même de lorsqu'il a déchiré l'accord sur le nucléaire. Parce que dans le fond, il ne fait pas confiance au régime de Téhéran. Donc tout part de là quand même, parce qu'effectivement, il asphyxie l'Iran, qui ne peut plus exporter son pétrole. Et puis, l'Iran prend un risque aussi, c'est de s'attaquer à plus fort que lui. Puisqu'on a entendu Donald Trump qui essaie de dissuader et qui a dit, il y a quelques jours, vous en souvenez, je ne sais plus quand, il a dit « Mais moi, j'ai acheté quand même 2 000 milliards de dollars de nouveaux matériels de défense et je vais leur balancer dessus. » Donc aujourd'hui, c'est prendre le risque. Est-ce que l'Iran peut prendre le risque, en réalité, d'affronter la plus grande armée du monde, qui a une puissance de feu, qui a une puissance de renseignement qui est absolument énorme.
Aidé par le pays qui a le plus travaillé sur l'Iran
et sur son
système de recherche nucléaire, Israël.
Alors, est-ce qu'ils vont toucher au site militaire américain? Parce que là, s'ils touchent à ça, c'est toucher le Saint-Dessin. Donc, la riposte est immédiate.
Oui, mais
alors, est-ce qu'ils peuvent attaquer de manière plus... Israël, les alliés, l'Arabie saoudite...
Peut-être une attaque vers les alliés, c'est quand même ce qu'on entend beaucoup.
Ils ont, si vous voulez, des appuis assez importants, que ce soit en Irak. Même si en Irak, ça remue pas mal contre l'influence iranienne aussi, il ne faut pas l'oublier. Ils ont la Syrie, ils ont le Liban. Donc il y a des cibles, si vous voulez, notamment américaines, ne serait-ce que diplomatiques. Mais rappelez-vous une chose. En 1980, il y a eu le conflit Irak-Iran. Et nous, la France, nous avions pris parti, Charles Hernu à l'époque, Pierre Mauroy, Premier ministre, de livrer des 155 à grande cadence de tir à l'Irak, et plus des super étendards qui avaient décollé d'ailleurs du Clémenceau qui était au large de Beyrouth. Eh bien, nous avons eu une mesure de rétorsion, c'était la série d'attentats du 4 septembre 86 au 17 septembre au Tati 86, exécutés, si vous voulez, par notamment des Tunisiens recrutés par les Iraniens, l'exogène venant du Hezbollah de Beyrouth, etc. Et ça avait fait pas mal de victimes. Ouais. Vous vous souvenez que l'attentat de la rue de Rennes, ouais, Tati, oui, est resté l'attentat qui a fait le plus, oui, de victimes alors, pendant un certain temps.
Il n'empêche qu'en termes Jacques purement militaires, la puissance américaine aujourd'hui est capable effectivement de détruire un certain nombre de... D'ailleurs, la menace de Trump sur les 52, c'est le nombre des otages américains.
52 mignons, oui, tout à fait.
Pas par hasard. C'est ça. Donc, cette menace-là, effectivement, destruction. Vous imaginez effectivement d'un raid aérien ou par tous les moyens, en tout cas modernes, dont dispose l'Amérique, de pouvoir détruire la capacité, par exemple, l'essentiel. Parce que depuis des années, on sait à peu près... Où sont les principaux sites, centres, ne serait-ce que ceux où les experts sont allés.
J'entends bien ce que tu dis, Gérard, mais on va s'arrêter là. Il y aura une mesure de rétorsion.
Il y aura une mesure de rétorsion.
Et il y a évidemment une crainte importante aujourd'hui aussi du côté d'Israël, parce qu'ils l'ont dit, hein, l'Iran, ils ont prévenu. Hein, ils ont dit, vous avez tweeté que vous attaqueriez 52 sites, ben nous, on attaquera Haïfa, Israël, Tel Aviv, et on réduira ça en poussière. Oui. On en reparle, évidemment, un dossier à suivre avec vous. Merci beaucoup, Rosine Fèvre, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou. Merci à vous.